RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Et c'est parti, 6h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. Sincèrement, je suis ravi, on va passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h. Un bon réveil! Et on salue tous ceux qui travaillent d'ores et déjà ce dimanche matin. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter et on vous salue. Au menu de cette matinée tout à l'heure, Jean-Luc Moreau me rejoindra entre 8h et 10h, ce sera l'automobile, votre rendez-vous du dimanche matin, 2h dédiées à l'auto. Je sais que c'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience et ça tombe bien parce qu'on parlera d'un carburant qui est de plus en plus à la mode, c'est le super éthanol E85. Est-ce qu'on peut rouler au super éthanol E85? Et puis on parlera aussi de justice tout à l'heure avec, vous vous en souvenez souvent, peut-être, cette histoire de radar sur Facebook. C'est la fin du suspense puisque la Cour de cassation a confirmé la relaxe générale des membres du groupe Facebook qui avaient été jugés pour avoir publié en fait des radars sur Facebook. On en parlera. Et puis vos questions auto 32-16 à partir de 8h. Mais pour débuter en ce dimanche matin, c'est Laetitia Barlerin, notre veto, qui est là. Bonjour Laetitia.
Bonjour François, bonjour à tous.
Bon, Laetitia.
Oui.
Vous n'indiquez pas sur Facebook où sont les emplacements des radars.
Non, pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Bourreau.
C'est-à-dire que je ne peux pas conduire et renvoyer.
Ça, c'est pas possible et c'est interdit.
Voilà,
en plus.
Faut choisir.
Voilà, on perd beaucoup de points quand on tient un téléphone alors qu'on conduit. Laetitia Barlerin est notre vétérinaire, vous le savez, elle est là tous les dimanches sur RMC entre 6h et 8h et elle répond d'ores et déjà à vos questions animaux. Allez-y, 32-16 d'ailleurs, dans un instant Laetitia, nous aurons Jean-Pierre qui nous attend d'ores et déjà. On évoquera tout à l'heure notre quiz de la vie privée des animaux. Laetitia, on va parler de quoi dans ce quiz?
D'une première mondiale.
Je n'en
dis pas plus.
Bon, alors on va parler tout à l'heure de lapins, de chevaux, de dauphins. C'est ça?
Eh oui, et même de médiation animale, c'est-à-dire que c'est la zoothérapie, ce qu'on appelle la zoothérapie, voilà.
Eh bien, dites-moi.
On parlera de chevaux, mais de chevaux municipaux.
Oui.
Employé municipal. Ça vous dit quelque chose, employé municipal?
C'est vrai.
Justement, mais c'est des chevaux, ils sont pas...
Ils sont en 35 heures aussi?
Je sais pas. Je pense qu'ils travaillent un petit peu moins, en tout cas. De plus en plus... Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué dans votre commune ou dans d'autres communes, il y a de plus en plus de chevaux municipaux. Alors, ils servent à quoi? Ils servent, par exemple, à la collecte des déchets. Ils servent aussi à aller chercher les enfants pour les amener à l'école. Voilà, il y a des brigades aussi équestres dans les municipaux.
Et puis c'est sympa d'avoir
alors
des chevaux.
C'est sympa, c'est écolo. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On en parlera justement tout à l'heure.
Le bien-être animal est là? Parce qu'il faut, faut malgré tout y penser.
Est-ce que la ville est dangereuse pour les animaux? Est-ce que les chevaux aussi sont dangereux en ville? Voilà, nous en parlerons tout à l'heure.
Voilà, on évoquera aussi les lapins qui ont aussi leur école, Laetitia. Alors ça, franchement, il va falloir vous m'expliquer tout à l'heure.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le Rabbit School.
The Rabbit School.
Oui, bon.
On n'en dit pas plus, on laisse planer le suspense. On évoquera aussi les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes.
Il semblerait, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir sur les contaminants. Ils seraient contaminés, les dauphins.
Oh là là, on verra ça. Eh oui, parce que évidemment, on sait qu'il y a des polluants.
Et, oui.
Et les dauphins, même s'ils ont des systèmes de défense très évolués, très élaborés, ingurgitent tous ces produits néfastes. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle le standard pour joindre Laetitia Barlerin, le 3216, et bien sûr le mail animaux@rmc.fr. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et nous accueillons Jean-Pierre pour débuter en ce dimanche matin. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour à tous les deux et je vous souhaite une bonne journée.
Eh bien merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci.
J'ai un gros souci avec un Jacques Russell. J'ai 4 chiens, ce sont 4 mâles. Et ce Jacques Russell a la dent un peu dure. Et dernièrement,
la dent un peu dure.
Oui,
j'aime bien le terme.
Même assez dur. J'ai un personne Russell aussi. Et ils se sont battus. Et comme le Jacques est beaucoup plus fort que le personne, il a roulé et il lui a arraché. Enfin, il a fait une belle entaille à la gorge. Je l'ai vite amené chez le vétérinaire qui a constaté. Et quand je suis allé rechercher ce chien, il m'a dit on a frôlé la catastrophe, c'était à 2 mm de la jugulaire.
Oula, oui, il avait bien visé, comme on dit.
Excusez-moi.
Il avait bien visé, comme on dit. Il savait très bien ce qu'il faisait.
Mais ça fait deux fois qu'il s'attaque à lui. La première fois, ça a été à la commissure des babines, qui lui avait coupé la commissure. Donc.
Oui, c'est un peu tendu quand même, j'ai l'impression, Jean-Pierre, entre eux. Allô? Ah, Ben Jean-Pierre est parti. Laetitia, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est complètement parti. Jean-Pierre. Mais c'est pas grave. On va essayer de le retrouver, mais on a compris un petit peu sa question. Hein. On sent qu'il y a des tensions entre ses chiens, Laetitia.
Et j'aimerais bien lui poser des questions à Jean-Pierre, voilà. Parce que je ne peux pas le. Voilà, parce qu'a priori, c'est un chien qui se bagarre avec l'autre chien de la maison.
Ben oui. Parce qu'il a quatre chiens, hein, rappelons-le. Hein.
Alors voilà, ben, il multiplie par quatre peut-être le problème. Si c'est quatre mâles, c'est ça le problème. Alors, quand vous avez deux chiens à la maison, quand vous avez chien mâle et femelle, bien souvent ça se passe bien.
Ça va.
Quand vous avez deux mâles, voire deux femelles, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes de bagarre, des problèmes...
C'est-à-dire que dès qu'ils sont de sexe similaire, on va dire, ça devient un peu costaud.
Voilà, parce qu'on sait que chez le chien, je dis pas entre le chien et l'homme, mais en tout cas chez le chien, il y a une hiérarchie. Mm-hmm. Entre mâles et entre femelles. Et si la hiérarchie n'est pas fixe, c'est-à-dire que si un chien se sent dominant par rapport à un autre, mais l'autre n'est pas d'accord, il peut y avoir justement des bagarres.
Jean-Pierre est de retour, j'ai l'impression. Jean-Pierre, vous êtes là ?
Oui, voilà, excusez-moi, ça, je ne sais pas pourquoi ça...
Bah, écoutez, sais pas, c'est pas votre chien qui a mordu la jugulaire du téléphone ?
Non.
Non, ben, ça va alors.
Ils sont tous sur le canapé.
D'accord.
Et donc, je l'ai fait soigner et la solution serait de lui couper les testicules. Mais moi, je ne veux pas le rendre comme ça, cette pauvre bête. Alors, je voudrais savoir s'il y avait des médicaments qui pourraient le rendre un petit peu plus sociable.
Alors, il y a la stérilisation chirurgicale dont vous a parlé votre vétérinaire et la stérilisation chimique aussi. Mais alors, juste une chose, Jean-Pierre, c'est quatre mâles ?
Oui, quatre mâles.
Et il y a juste un problème entre deux mâles.
En fait, avec qui s'entend le mieux, c'est avec un mâlement qui a à peu près le même âge que lui, à quelques mois de différence. Il a 3 ans, ce Jacques. Et les deux autres, le Labrador et le Parson Russell, sont assez âgés. Le Labrador a 14 ans et le Parson a 8 ans. Mm-hmm. Et comme le Parson a un caractère aussi spécial, c'est toujours en train de retourner.
Ah ben c'est un terrier.
Oui. Il ne faut pas trop le regarder parce qu'il ronchonne, mais il n'est pas méchant, lui. Mais c'est ce Jacques qui est agressif.
D'accord. Voilà,
avec les deux autres.
D'accord.
Alors, je voudrais savoir s'il y avait un médicament.
Alors, d'abord, il n'y a pas de médicament miracle qui règle les problèmes de cohabitation entre chiens. D'abord, je tenais à vous le dire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec votre vétérinaire, quand les hormones s'en mêlent, tout part en vrille, c'est vrai. Il suffit que dans les parages, dans les kilomètres autour de chez vous, il y ait une chienne en chaleur. C'est quelque chose qui attise les rivalités entre les mâles quand ils ne sont pas stérilisés. Et c'est un petit peu la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certaines choses. Et ils se battent. Il suffit qu'il y ait un chien aussi qui ait trouvé un bout d'os ou un jouet et l'autre le veut. Pof!
C'est parti.
Il suffit qu'il y en ait un qui soit sur le canapé et le deuxième veut y aller et le premier n'est pas d'accord. Pof, ça part tout de suite en vrille. Il y a aussi les relations entre eux. Alors, concernant la stérilisation, vous pouvez commencer par une stérilisation chimique qui est réversible. J'en parle très souvent dans cette émission.
Donc c'est quoi ? C'est des comprimés, des patchs, c'est quoi ?
Alors c'est un implant hormonal, implant contraceptif, un petit peu comme ça existe chez l'homme, que l'on met sous la peau, qui est biodégradable, c'est-à-dire
que... C'est très facile à installer, enfin voilà.
Oui, c'est comme si on installait une puce électronique, vous voyez, voilà. Donc on le met sous la peau.
Donc alors, pas d'anesthésie, rien du tout.
Rien du tout. Au bout, alors faut attendre quand même un certain nombre de semaines, parce que c'est une hormone qui couple tout un cycle hormonal qui fait que ça diminue la libido, ça diminue la production de spermatozoïdes et ça diminue surtout les hormones testostérone. Et du coup, on a un chien qui n'est plus gouverné par ses hormones mâles. Voilà, mais ça ne va pas non plus résoudre à 100% les problèmes qu'il y a entre vos chiens, parce qu'il y a une hiérarchie entre vos chiens. Mais vous pouvez commencer par ça, Jean-Pierre. Commencez par ça et peut-être le faire sur votre Jack Russell qui pose problème et peut-être aussi sur votre Parson Terrier qui pose aussi problème pour diminuer les hormones
global.
Dans les deux camps.
L'atmosphère hormonale qui est un peu trop élevée là.
Hormonale, mâle, dans les deux camps. Mais il faut aussi vous, Jean-Pierre, que vous mettiez le holà pour tout ça. Il faut pas, par exemple, qu'ils se battent devant vous. Quand ça commence à grogner entre chiens, pof, on les met dehors.
Mais il faudrait peut-être que vous serriez un petit peu plus la ceinture, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, montrer que c'est vous le patron.
C'est-à-dire, quand vous êtes là, il ne doit pas y avoir de bagarre entre chiens. Mmh. C'est simple. Ouais. Après, quand vous n'êtes pas là, c'est leurs histoires. Mais il faut juste qu'ils mettent en place une hiérarchie qui peut être mouvante. C'est-à-dire, demain, peut-être que c'est la personne qui sera dominant par rapport à l'autre. Mmh. Bon. Mais il faut qu'ils mettent en place. Ils ne l'ont pas encore mis, cette hiérarchie. Donc, quand ils sont là et quand ils grognent, vous les mettez dehors. Mmh. À la rigueur, quand ils commencent à bien se battre, vous sortez le jet d'eau pour les séparer. Vous leur donnez à manger séparés. Ça, c'est important. Et puis, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Parce que il y a peut-être un problème aussi de canapé, par exemple. Vous parlez de canapé. Il y a peut-être un problème de canapé entre eux. Il y a peut-être un problème d'endroit où ils dorment. Mmh. Et si vous n'y arrivez pas, prenez un éducateur comportementaliste qui va venir chez vous et voir un petit peu comment
analyser la situation.
Bah, analyser la hiérarchie qu'il y a entre ces quatre chiens.
Jean-Pierre, merci. Laetitia, on revient dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux et on poursuivra avec vos questions ce dimanche matin. On vous attend 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts et les animaux. Dans quelques instants, la météo et les infos de 6h30. Mais auparavant, la tia-tia, il est temps de retrouver le quiz de la vie privée des animaux. Attention. J'espère que cette petite devinette de cette semaine ne va pas me mettre mal à l'aise, la tia-tia.
Oh,
que je vais m'en sortir.
Non. Ça s'est passé cette semaine. Début du mois de septembre, en Afrique du Sud. Une chose incroyable, d'un point de vue scientifique, a eu lieu dans une portée de chiots.
Il y a eu un chat. Merci beaucoup. Au revoir, Laetitia.
Voilà, la pauvre chienne.
Mais qu'est-ce qui se passe, Adol?
Surtout qu'elle doit s'expliquer avec le père.
Hein, oui, c'est bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Patati patata.
Alors, c'est quoi cette chose incroyable? Alors, j'ai trois propositions.
Oui.
Deux chiots sont nés de pères différents, bah justement.
Voilà, on y est. Deux chiots sont nés de pères différents.
Dans une portée de chiots.
Dans la même portée.
Ah bah dans la même portée.
On
bien
est
sûr.
D'accord. Ok.
Deux chiots.
C'est déjà arrivé ce truc-là, non? Une fois. Je crois que vous en aviez parlé. C'est pas arrivé déjà? Non mais ça vous pouvez me répondre. C'est un truc qui s'est déjà passé.
Non, c'est la première fois.
C'est la première fois.
C'est
d'accord.
La première fois.
Bon.
Deux chiots sont nés vrais jumeaux. Ou deux chiots sont nés avec un pelage rose.
Totalement rose.
Oui, pas seulement la peau, le pelage.
Le pelage. Bon, écoutez, alors là, je n'en ai aucune idée, Laetitia. Mais alors franchement, donc comme chaque semaine, je vous invite à m'aider avec animaux@rmc.fr. Laissez-moi votre proposition. On retrouvera la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux après les infos de 6h30. Mais auparavant, on accueille Michel qui est là. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour François. Bonjour Laetitia.
Bonjour Monsieur Michel.
Bonjour. Oui, ben merci déjà avant tout à Laetitia et tous les conseils du comportement. Ça, c'est hyper intéressant.
Merci à vous.
Oui. Alors, moi, j'ai appelé pour une chatte qui a 8 ans.
Oui.
Et avec l'expérience depuis le nombre de bêtes qu'on a eues, depuis 2 ans, je demande un bilan sanguin pour avoir un point de départ, pour savoir où on en est au niveau de l'urée. Parce que souvent, nos bêtes partent au niveau de l'urée.
C'est pas au niveau de l'urée, c'est plutôt les paramètres rénaux, c'est-à-dire savoir si ses reins fonctionnent bien.
Voilà, c'est ça. Alors, ma question est la suivante, c'est que apparemment ça a augmenté cette fois-ci, mais on est à la limite maximum.
Et la créatinine?
Attendez, je regarde vite fait.
Vous a dit votre vétérinaire.
Oui.
C'est surtout votre vétérinaire, voilà, parce que c'est pas tant des chiffres qui comptent.
Oui.
L'interprétation fonction de l'âge,
d'accord,
de l'animal, etc.
Qu'est-ce que vous a dit le vétérinaire?
Et des normes de la machine aussi.
Voilà. Alors le vétérinaire, là où il m'a surpris un peu, c'est comme ça, on va prolonger avec le traitement, on va prolonger votre chat 3-4 ans. Oh là là, j'ai pris un coup.
Parce qu'il vous a dit quoi? Qu'elle était insuffisante rénale? Qu'elle avait des problèmes de reins?
Non. On était juste à la limite maximum d'après les valeurs usuelles, quoi.
Ouais.
Les valeurs usuelles 0,64 et on est à 0,66. Et la créatinine que vous me demandez, Ben là, on est bien. Enfin, on est bien. On est à 11,9 pour 21 de maximum.
D'accord. Et
que vous... Alors, oui, pour lui, il dit, bon, ben, on va commencer un traitement pour faire diminuer apparemment l'urée, quoi.
D'accord. Et il vous a donné quoi comme traitement?
Alors, le traitement, c'est le... attendez, j'ai pu...
Donc, bah, il vous a donné un traitement pour faire... Parce que ce qui l'inquiète, votre vétérinaire, c'est que des constantes soient à la limite.
Oui.
Bon, alors, sauf la créatinine, c'est ça qui m'étonne un petit peu, parce que il faut toujours regarder deux paramètres pour les reins. Alors, c'est deux paramètres qui, quand les reins... Alors, vous savez, les reins, c'est quoi? Ce sont des filtres qui filtrent le sang. Il filtre le sang pour enlever les toxines, pour éviter que les toxines restent dans le sang et intoxifient bien sûr l'organisme. Quand on a deux paramètres qu'on regarde, c'est l'urémie, la créatinine, et quand ça augmente, et c'est vrai que c'est un indicateur comme quoi faut faire attention, les reins commencent à moins filtrer. Alors faut faire aussi attention à une chose chez
c'est
le
très
chat.
Courant chez le chat.
Alors chez le chat âgé.
Oui.
Alors 8 ans, on n'est pas encore. Bon, on commence quand même à être dans les âges. Et c'est très bien, Michel, de lui faire une prise de sang pour vérifier un petit peu. Voilà, si les reins fonctionnent bien, si il n'y a pas de diabète, par exemple, si le foie fonctionne bien, parce que nous, vétérinaires, bien souvent, on fait cette analyse de sang quand il y a déjà les symptômes. Or, quand il y a déjà les symptômes, c'est déjà évolué.
Voilà. Et là, ce qu'avait l'air de dire le vétérinaire de Michel, c'est que ils ont pris assez tôt, en fait, ce mal-là, pour prolonger l'espérance de vie de ce chat, parce qu'on va lui donner un traitement.
Alors, c'est
va ralentir, en fait, l'insuffisance rénale.
C'est-à-dire que souvent, les paramètres augmentent, enfin les paramètres sanguins augmentent avant les symptômes.
D'accord.
Donc c'est déjà un signe. C'est pour ça qu'on vous dit.
Et il existe des traitements.
Et là, du coup, il vaut mieux. Voilà. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut donner un traitement le plus tôt possible pour retarder la maladie, parce que l'insuffisance rénale chronique, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique, c'est quoi? C'est au niveau des reins, c'est le tissu rénal qui se détruit progressivement. Alors pour des raisons X ou Y, il y a beaucoup de polémiques, on sait pas trop, bien souvent on sait pas trop de quoi ça vient, mais on sait qu'avec les années, le tissu se détruit petit à petit, et on commence à voir les symptômes de l'insuffisance rénale que quand 75% du tissu rénal est détruit. C'est-à-dire, c'est très évolué.
Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur ce sujet, parce qu'il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions aussi. S'ils ont un chat, quels sont les premiers symptômes?
Exactement,
à quel moment faut-il s'en inquiéter? On poursuit cette discussion après la météo et les infos de 6h30, puisque la question de Michel est très intéressante. Le 3216, animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Du week-end des experts, les animaux avec Laetitia Barlerin. Laetitia, ce nouveau petit générique, vous sciez, comme on dit? Ça va? C'est sympathique, hein? Ça donne envie de danser? Oui, c'est parti.
Ouais, c'est entraînant, ça change, c'est bien.
Voilà.
C'est bien, le changement.
Laetitia qui m'accompagne jusqu'à 8h. Notre veto, qui sait?
Le veto, ça change pas.
Ça bouge pas, même si un nouveau générique.
Pas.
Et puis, dans quelques instants, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. C'est étonnant, cette histoire de chiens qui sont nés de la même portée, mais qui ont une particularité, Laetitia. Hein,
voilà.
Voilà, ça sera dans un instant. Mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons et qui est avec nous au 30.
On revient sur Michel.
Oui, pardon, c'est vrai, vous avez raison. Jean, ce sera dans un instant. On revient sur Michel qui, rappelons-le, est allé chez son vétérinaire, et le vétérinaire a détecté, en fait, tout début d'insuffisance rénale chez son chat.
Voilà.
Et on en parle depuis tout à l'heure.
Et Michel me demandait s'il fallait vraiment donner ce fameux médicament. Alors, ce que je disais, c'est que l'insuffisance rénale chronique chez le chat, c'est vrai que c'est une maladie qui est assez fréquente chez le vieux chat, enfin le chat qui commence à prendre de l'âge. On a une destruction chronique des néphrons, c'est-à-dire du tissu rénal. Et le problème, c'est que chez le chat, on commence à avoir des symptômes que quand les trois quarts du tissu rénal est détruit. Donc c'est pour ça que nous, vétérinaires, nous conseillons de faire des prises de sang régulières, surtout à partir d'un certain âge chez le chat, pour vérifier que les reins filtrent bien. Et c'est vrai que les paramètres sanguins sont les premiers affectés lors d'un problème rénal. mâle. Donc on a une augmentation, un début d'augmentation de l'urée sanguine ou de la créatinine sanguine.
À partir de quel âge un chat peut commencer avoir des problèmes d'insuffisance rénale?
Alors, on a des insuffisances rénales à tous les âges, même chez des jeunes chats. Mais c'est vrai qu'à partir de 8 ans, faut faire attention.
D'accord.
8-10 ans, là, c'est vrai qu'il faut... Moi, je conseille à 8-10 ans de faire déjà une première prise de sang pour évaluer.
Faire le point, un check-up.
Voilà, parce que même si, concernant le diabète, par exemple, le diabète aussi, on a une augmentation des paramètres du sucre dans le sang avant qu'on ait des symptômes. Donc, c'est là aussi où il faut tout de suite traiter.
Alors, l'alimentation peut avoir un impact sur cette insuffisance rénale ou pas?
C'est la grande partie du traitement.
D'accord.
C'est l'alimentation. Parce que tout passe par le rein. Vous savez que le rein est un filtre du sang, donc enlève tout ce qui est toxine dans le sang. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention aux protéines dans l'alimentation, surtout au phosphore dans l'alimentation. Et justement, on propose une alimentation pour chats insuffisants rénaux qui, justement, tient compte justement de ces problèmes.
Avec moins de protéines, c'est ça ?
Un peu moins de protéines, mais des protéines de bonne qualité et moins de phosphore.
D'accord.
Et on a aussi des médicaments. Alors, c'est peut-être le médicament que vous a donné votre vétérinaire. Alors, c'est des médicaments qui... Alors, il y en a certains qui diminuent justement le phosphore dans l'absorption du phosphore au niveau intestinal, mais surtout des médicaments qui régulent la pression sanguine. Parce que si ça, c'est important pour le filtrage au niveau du rein, il faut réguler cette pression sanguine. On a souvent une hypertension avec l'insuffisance rénale. Donc, Michel, votre vétérinaire vous a donné un médicament. Donner le médicament à votre chat et évaluer l'effet de ce médicament dans un ou deux mois, c'est-à-dire avec une prise de sang, pour voir si les paramètres sanguins témoignent du fonctionnement des reins diminuent. Mm-hmm. Et si ça diminue, peut-être qu'il faudra arrêter le médicament. Peut-être pas, c'est à votre vétérinaire d'en décider. Et ça permet, bien entendu, ça permet de prolonger l'espérance de vie de votre chat, surtout s'il a un début d'insuffisance rénale. Voilà.
Voilà. Très bien. Ça, il fallait faire le point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet. C'est véritablement un fléau chez le chat, l'insuffisance rénale.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme je vous dis, à partir de 8, 9, 10 ans, il faut commencer à faire une prise de sang et faire un petit peu un bilan sanguin, tout simplement.
Tout à fait.
Un bilan médical de votre chat.
Exactement. Laetitia, on va retrouver le quiz de la vie privée des animaux, mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons au 32-16. Bonjour Jean.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Jean.
Je vous écoute depuis longtemps et vous êtes mon réveil matin du dimanche.
Ah, bah c'est très sympa, merci beaucoup.
Un réveil pas trop douloureux, j'espère.
Non, pas du tout.
Bon, tant mieux.
Pas du tout. Donc je vous appelle pour ma petite chatte qui a un changement de comportement depuis quelques semaines.
Oui.
C'est une petite chatte qui était toujours avec moi. Elle était, lorsque j'étais dans la maison, elle était toujours avec moi.
Oui.
Si je m'installais dans le fauteuil, elle montait sur mes genoux. Lorsque je sortais à l'extérieur, elle me suivait.
Oui.
Quand j'étais dans le jardin, elle venait se coucher dans la même plate-bande que la plate-bande dans laquelle je travaillais.
Oui.
Et ceci durait depuis que je l'ai eu. Je l'ai eu, elle avait 3 mois.
D'accord.
Et maintenant, elle a 2 ans et demi bientôt. Donc, ceci a duré pendant longtemps, et puis il m'est arrivé un problème dans la vie. J'ai eu un accident, d'abord une fracture du bras, ensuite un accident cardiaque, donc j'ai été hospitalisé pas mal de temps.
Oui.
Et pendant cette période, bien sûr, ma petite chatte est toute seule à la maison, avec quelqu'un qui venait la voir matin et soir, bien sûr,
oui,
pour lui donner à manger et à boire, mais on tenait à ce qu'elle ne sorte pas, car j'avais peur qu'il lui arrive... un accident.
Bien sûr, vous n'étiez pas là. Oui.
Voilà, puis on est très près d'une route. Donc, le changement de comportement qui s'est produit, qui m'intrigue et qui m'inquiète un petit peu, c'est que depuis que je suis revenu, étant donné qu'elle est restée pendant plusieurs mois enfermée dans la maison, depuis que je suis revenu, elle demande le plus souvent possible à sortir.
Oui.
Elle n'a plus le même comportement vis-à-vis de moi dans la maison.
Oui.
Quand elle rentre, elle a plutôt tendance à se coucher sur une chaise, si vous voulez.
Oui. Elle est plus autant collante qu'avec vous.
Ah, pas du tout. Plus du tout, au contraire. Et même parfois, le soir, elle refuse de rentrer. Elle demande à être dehors presque toute la journée. Le soir, souvent, elle refuse de rentrer. et elle ne revient que le lendemain matin.
Bon.
Alors, je voudrais savoir d'où vient ce changement de comportement, quoi. Mm-hmm. Et est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir machine arrière?
Oui, vous inquiétez pas, Jean, elle va changer. Vous inquiétez pas, la relation que vous avez eue avant, ça va revenir petit à petit. Ah. Alors, faut quand même remettre les choses en place, c'est que quand vous avez été hospitalisée, elle a été enfermée dans la maison, alors qu'elle a connu déjà cette, entre guillemets, liberté de sortir. Alors, vous savez, les chats qui ont connu le jardin, qui sont sortis, c'est vrai qu'ils gardent en eux ce besoin de sortir, d'aller chasser les papillons, les lézards, de se promener la nuit quand il fait frais, parce que les rongeurs, ben c'est là où on peut les chasser, d'aller voir le chat du voisin, enfin voilà, d'avoir leur petite vie. Vous lui avez enlevé ça, ce qui est normal, puisque vous n'étiez pas là, il fallait la surveiller, vous avez très bien fait, Jean. Et vous êtes revenu, et là, vous lui avez rouvert la porte, et elle est sortie. Bon, ça, c'est normal, dans le sens où, voilà, elle va, en plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, elle va rester dehors, vous inquiétez pas, elle va devenir plus casanière avec les premières pluies et le froid. Donc, elle va revenir chez vous, vous inquiétez pas. Concernant le comportement qu'elle a vis-à-vis de vous, vous dites qu'elle a changé, mais vous aussi, vous avez changé. C'est-à-dire que vous êtes parti. Vous êtes revenu et vous voulez revivre ce que vous avez vécu avant votre hospitalisation avec elle, c'est-à-dire cette relation très étroite que vous avez avec elle. Donc vous êtes en demande. Or, quand on est trop en demande par rapport à un chat se méfie. Vous êtes, alors, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais vous la regardez beaucoup, je suis sûre, parce que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, parce que vous avez été hospitalisé et que voilà, vous l'adorez, ce qui est normal. Vous voulez qu'elle soit avec vous, donc vous êtes souvent à vouloir la caresser, peut-être la porter, je sais pas. Et ben ça, le chat n'aime pas. D'abord, il aime pas être regardé, observé, parce que instinctivement, il se dit, quand on m'observe, il y a peut-être un danger. Mm-hmm. Ensuite, vous êtes revenu, elle vous observe de loin. Elle a pas, c'est pas que vous, comme vous, si vous étiez un étranger, mais vous-même, vous avez changé. Mm-hmm. Donc, quand on change, un chat nous observe de loin.
C'est une espèce de méfiance.
Une espèce de méfiance, voilà, un instinct. Et surtout quand on veut vous savez, c'est comme les chats qui, comme par hasard, quand vous avez des invités à la maison, ils vont direct sur l'invité qui n'aime pas les chats ou qui a peur des chats.
C'est dingue. C'est fou.
Pourquoi? Parce que cet invité, justement, le regarde pas et ne veut pas aller vers lui.
N'a aucun intérêt envers ce chat.
Ne veut pas entrer en contact. Et donc, du coup, instinctivement, le chat va vers cet invité et non pas vers tous les invités qui ont des chats.
Il est trop mignon,
je veux le caresser, etc. Ils vont plutôt vers la personne qui ne veut pas les caresser. Donc, c'est un petit peu ce qu'elle vous fait, là, votre minette. Ne vous inquiétez pas, Jean. Tout va revenir comme avant. C'est-à-dire que petit à petit, elle va revenir vers vous. Elle va voir que, c'est sympa d'être caressée par vous, etc. Mais soyez moins sur elle. Je sais que vous avez une attente envers elle, parce que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Donc, soyez moins sur elle. Laissez-la venir à vous.
Et puis, vous aurez la récompense. Si justement vous vous retenez, elle viendra vers vous.
Elle viendra vers vous, Jean.
Merci, Jean. On revient dans un instant. Il est pratiquement 7h moins le quart. Laetitia, dans une minute, ce sera la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et puis, on poursuivra avec vos questions animaux. Je vous rappelle que vous pouvez joindre notre vétérinaire au 3216 ou bien par mail. animaux@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, rajoutez-nous votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. Pourquoi pas ce matin si vous nous écrivez un petit message. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Voilà de retour, 7h moins le quart, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, on parlera du bouvier de Claude, du bouvier bernois. Berlinois, c'est berlinois ou bernois qu'on dit?
Bernois.
Voilà, c'est ça. En fait, le bouvier de Claude ne veut pas monter dans la voiture.
Ah, c'est un problème parce que c'est un gros chien à porter.
Alors, on pourrait peut-être poser la question à Jean-Luc Moreau, qui pourrait nous aider. Mais on va d'abord la poser à vous, ce sera dans un instant. Mais auparavant, notre quiz de la vie privée des animaux, Laetitia.
Et c'est un quiz sur une portée de chiots. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Oui. Une chose incroyable d'un point de vue scientifique a eu lieu dans une portée de chiots. Laquelle? Soit deux chiots sont nés de pères différents, ou deux chiots sont nés vrais jumeaux, ou deux chiots sont nés avec un pelage rose.
C'est pas facile. Je me tourne vers le mail. la tia-tia.
Bien sûr.
Vers animaux@rmc.fr.
Eh oui.
Et nous avons Michel, Sébastien, notre pâtissier préféré, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il est au fourneau là, c'est ce qu'elle veut dire.
Eh oui.
Christiane aussi qui nous envoyait un petit message, Laurence, etc. On vous salue, on vous embrasse. Ils sont d'accord, Laetitia. Et ils pensent que dans cette portée, il y a eu pour la première fois des chiens jumeaux. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Des vrais jumeaux ?
Des vrais jumeaux.
Oui.
Des vrais jumeaux, quoi. C'est les mêmes. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que chez l'humain, ça arrive assez souvent. Pourquoi ça serait exceptionnel chez les animaux ?
Donc c'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça ne vous embête pas si je vous appelle Jean-Pierre ? Non. D'accord.
Jeanne-Pierrette, à la rigueur.
Jeanne-Pierrette. Jeanne-Pierrette. Bon, sérieusement, la tia-tia. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je
vous mettez les applaudissements ou vous mettez le bip ?
Ah, mais je mets les applaudissements pour les auditeurs.
Merci beaucoup.
Je suis
tellement fort à ce jeu.
C'est étonnant, n'est-ce pas ?
Oui, c'est étonnant.
Parce qu'en fin de compte,
vous comptez piéger avec ce quiz. Hein.
D'abord, une chose. Dans une portée, ce sont des faux jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs placentas.
D'accord.
Et le fait d'avoir le même placenta pour les deux chiots, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment de vrais jumeaux, des monozygotes comme on dit, c'est extrêmement rare, surtout quand ils survivent. Parce que ce qu'on a, il est arrivé dans les portées, que deux chiots aient le même placenta, mais un des deux mourait, ou les deux. Très souvent c'est ça, donc on n'a jamais de vrais jumeaux. On a des faux jumeaux. Alors, concernant aussi les pères, on peut avoir deux pères.
Eh oui, bien sûr. Mais ça, parce qu'on l'avait déjà évoqué. Je me souviens d'une histoire insolite où, en fait, je ne sais plus si c'était un chat ou une chienne.
Et les chats aussi, ils peuvent avoir plusieurs pères.
Voilà.
Dans une portée. Alors, concernant ces chiots. Alors, ça s'est passé chez un confrère qui a fait une césarienne. Et il s'est aperçu pendant la césarienne, mais il ne l'avait pas trop vu, sur un placenta, il y avait deux chiots. Bon, mais il l'avait pas trop regardé. Et ça lui est revenu après, parce que quand il a revu les chiots, il s'est aperçu, alors ce sont des lévriers irlandais, il s'est aperçu que deux chiots se ressemblaient vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes taches, au même endroit.
Ah oui.
Et pour la première fois, il a fait une prise de sang avec analyse ADN, et on s'est aperçu que c'était deux vrais jumeaux, chose qu'on n'avait jamais démontrée sur d'autres chiens, d'autres chiots, d'autres portées, comme je vous disais, la plupart du temps, ces chiots sont faibles et les deux meurent ou un des deux meurt.
Bon, c'est étonnant cette histoire quand même.
Eh oui, alors c'est bien. On va vous mettre les photos sur internet. Mais c'est vrai que quand tu vois, on voit qu'ils ont les mêmes taches, enfin qu'ils sont pareils quoi. C'est vraiment de chiens identiques.
Bon, il faudrait maintenant qu'ils soient pas séparés ces chats.
Ces chiens.
Ces chiens.
Ah bah pourquoi ?
Bah je sais pas.
Enfin, ça serait bien de voir un petit peu l'évolution du caractère.
Du comportement.
Et du comportement. Parce qu'ils auront la même éducation, même portée et les mêmes gènes, bien sûr. Et savoir un petit peu s'ils ont une différence de caractère ou pas de tempérament.
Laetitia, il est 7h10. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC en ce dimanche matin. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux, comme tous les dimanches, entre 6h et 8h sur RMC. Et nous accueillons Claude qui est là. Bonjour Claude.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Claude.
Bonjour Laetitia.
Bienvenue Claude, on vous écoute.
Alors vous avez un bouvier bernois et non pas berlinois. Hein.
Oui, ça m'a bien fait rire. Berlinois.
Oh, il peut venir de Berlin aussi votre bouvier, hein, mais bon, c'est rare.
Non, alors il arrive de la région parisienne, moi je suis en région bordelaise.
D'accord, donc c'est un parisien.
C'est un chien que j'ai adopté, que j'ai recueilli.
Oui. À quel âge ?
Ça fait 6 mois que je l'ai, donc il a 5 ans maintenant.
Oui.
Il m'a été amené en voiture par ses propriétaires, par ses maîtres.
Oui.
Et alors la séparation a été un peu brutale, c'est-à-dire pour éviter les épanchements d'un côté ou de l'autre. Quand les maîtres sont partis, je me suis cloîtré dans la maison avec le chien.
Oui.
Et puis, je sais que du côté des maîtres, ça a été un peu, ça ça a été douloureux. Mm-hmm. Le chien, je pense aussi. Bref, les maîtres m'ont dit que quand ils me l'avaient amené, donc ils me l'ont amené en voiture, et ils avaient eu du mal à le faire monter dans la voiture. Mm-hmm. Et moi, je n'arrive pas à le faire monter en voiture, ce qui pose quelques petits problèmes.
C'est
par exemple, dans le tout premier mois où je l'ai eu, je pense que c'est une réaction de stress ou d'angoisse ou je sais pas trop quoi, mais il s'était mis à se lécher une hanche, à se mettre à vif, mais sur la surface de deux mains, les doigts écartés, quoi. C'était énorme. Mmh. Et donc, je pouvais pas l'amener chez le vétérinaire. J'étais obligé de faire des photos que j'ai amenées au vétérinaire, à la vétérinaire. C'était une vétérinaire.
Oui.
C'est ce qu'on appelle la télémédecine.
Ce qui a fait ce qu'il fallait pour que ça cesse.
D'accord. Oui, et puis c'est sûr que c'est pas un petit York à mettre dans la voiture, quoi.
Il doit faire 30, 40, 50 kilos. C'est un mâle.
Et là, il veut toujours pas monter dans la voiture.
Alors, il y a deux comportements qui m'intriguent. J'ai l'habitude des gros chiens. Hein.
C'est, oui.
C'est, oui, oui.
C'est le huitième, et sur les huit, il y en a quatre que j'ai adoptés. Et donc, il y a ça. Et je vis à la campagne, au fin fond de la campagne, sur un grand terrain qui fait 5 hectares. Mm-hmm. Il refuse de venir se promener. Alors j'ai un autre chien. J'ai un autre chien qui est un croisement de Patou et de Bouvier.
Oui.
Ils sont entiers tous les deux. Ils s'entendent très bien. Jamais, il n'y a eu aucun problème, jamais un grognement. Mais alors que l'autre me suit naturellement, lui. Il fait 100 mètres et il revient à la maison.
D'accord.
Parfois même, quand je dis « Allez, on va se promener », quand je mets mes chaussures, je suis en pantoufles, quand je mets mes chaussures pour aller me promener, il va se réfugier dans un coin de la cuisine, qui est son coin à lui, qu'il a choisi en arrivant ici.
Et il ne veut pas partir.
Il ne veut pas partir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement, Laetitia ?
Je pense que c'était un chien de banlieue et qui restait dans son jardin et qui n'a jamais parcouru le monde, comme
casanier.
On dit. Casanier ? Oui, mais enfin casanier par force, puisqu'on ne le promenait pas. Mmh. Et du coup, il a une peur bleue de l'inconnu, tout simplement. Pour vous, c'est normal, Claude, d'aller vous balader avec votre chien dans la nature. Pour lui qui vient de Paris, hein, de la région parisienne, hein, je ne sais pas comment il vivait, mais à mon avis, il n'a pas connu de grandes balades. Et du coup, pourquoi il veut rester à la maison ? Parce que ça fait que 6 mois qu'il est chez vous, c'est pas beaucoup. Il faut qu'il ait ses repères chez vous. Il a changé de famille. Brusquement, après 4 ans, après avoir vécu avec une autre famille, c'est quand même un stress, un bouleversement, pour ne pas dire un traumatisme. Et il a besoin de s'apaiser, d'avoir quelque chose qui s'apaise. La maison pour lui, votre maison, est un lieu apaisant où il a ses repères. Quand vous le prenez et que vous voulez l'emmener loin, c'est loin pour lui, pour vous c'est pas loin, c'est quelque chose qui lui fait peur, tout simplement. Alors il va falloir, avec le temps, et grâce aussi au deuxième chien qui lui, bah, il sait que bah, quand on va se promener, on revient à la maison après, hein, y a pas de problème, c'est un peu cette thérapie qu'il va avoir avec ce grand chien, il va prendre confiance en lui, en vous, en l'autre chien, et partir en balade, tout en sachant qu'il va revenir dans cette maison. Mmh. Il sait pas s'il va revenir ou pas, parce qu'il a été traumatisé. Concernant la voiture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a pris la voiture, il a été traumatisé puisque ses maîtres l'ont abandonné. Mmh. Faut le dire. Bon. Et c'est Claude, c'est un traumatisme pour lui. Donc il associe la voiture à un traumatisme, même si peut-être aujourd'hui il ne sait plus ce que c'est ce traumatisme. Mais il sait qu'il y a eu un stress. Donc voiture égale stress. Donc si je ne vais pas dans la voiture, je ne vais pas stresser. Mm-hmm. Donc voilà, c'est très très simple pour lui, c'est voiture égale stress. Donc il va falloir faire en sorte que voiture égale plaisir.
Plaisir. Oui.
Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous allez mettre votre voiture près de la maison et vous allez jouer avec votre chien près de la voiture. Voiture arrêtée, tout ça, on n'ouvre pas, rien. Ça, pendant plusieurs jours. Au bout d'une semaine, on va ouvrir les portes de la voiture, on va jouer à côté, avec son jouet préféré, et à un moment, vous allez envoyer le jouet préféré, tac, dans la voiture. Oh, comme par hasard. Il va aller chercher le jouet dans la voiture. Et puis, vous allez refaire.
Et après, on fait ça, moteur allumé, etc.
Après, des friandises dans la voiture, moteur allumé. Vous le faites rentrer dans la voiture, sortir de la voiture.
Porte,
là, un moment, vous allez sortir de la voiture, fermer la porte. Mais ça, au bout de plusieurs semaines. Ouais. Et après, ça va être un plaisir de monter dans la voiture.
Merci beaucoup, Claude. On enchaîne avec Françoise, Laetitia, maintenant.
Merci,
bonjour,
Claude.
Françoise.
Bonjour.
On vous écoute, Françoise.
Bonjour Laetitia, je suis contente de vous avoir.
Bonjour Françoise.
J'ai un petit bosseron qui a 5 mois et demi, enfin une femelle, et qui a 3 ergots. Donc je vais la faire stériliser et je vais en profiter pour couper un ou deux ergots. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, coupez-lui un ergot, le supplémentaire, le deuxième qui ne sert à rien.
mais le deuxième, il est très écarté. Et des fois, elle le cogne contre l'autre patte.
Ah.
Elle est mal foutue, ma chienne.
Oh,
elle est mal foutue. Pourquoi elle n'est pas tant au Louis XV ou quoi? Écoutez, si. Alors, je pense que d'abord, elle se cogne parce qu'il y a les deux ergots. Alors, ça arrive hein, chez les bosserons d'avoir un double ergot. Et le deuxième ergot.
On rappelle ce que c'est rapidement.
C'est le cinquième doigt hein, au niveau des pattes arrière. Il y a un double ergot qui ne sert à rien, qui pend, qui sert à rien. Oui. Le problème, c'est qu'il peut se prendre dans des. Par exemple, dans une couverture. Oui, oui. Il peut se frotter avec l'autre ergot. Et ça peut s'infecter ou voilà. Bon, ça c'est vrai que quand ça pose problème, ce double ergot, on l'enlève. Alors si on, par exemple, alors on n'anesthésie pas forcément pour ça, mais si on fait une anesthésie pour un détartrage, pour une stérilisation, etc., on profite pour l'enlever. Voilà, c'est pas une phalange hein, qu'on enlève, c'est juste voilà, c'est un double ergot qui ne sert à rien, donc vous pouvez l'enlever. Le vrai ergot, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? À voir. Si vraiment ça pose problème, on l'enlève, bien sûr. Hein, y a pas, si votre vétérinaire vous dit oui, on l'enlève, pourquoi pas? Bien souvent, comme je vous dis, c'est rare qu'on enlève l'ergot. On enlève surtout le double ergot,
d'accord,
qui ne sert à rien et qui, voilà, se prend. Il y a des fils qui peuvent se mettre dedans ou ça frotte tout simplement. Les deux pattes se frottent et puis il y a une infection, une inflammation et voilà.
Merci beaucoup Françoise et on va revenir dans un instant Laetitia. Après la météo et les infos, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux. On va parler de chevaux, on va parler de dauphins, de médiation animale aussi, puis de lapins aussi qui ont leur école. Ça s'appelle la Rabbit School.
C'est l'anglais. Ben oui. On avait les Puppy School pour les chiots.
Oui.
Eh ben maintenant, on a le Rabbit School.
Vous dites les pupilles, vous, pour les...
Les pupilles, you, school.
Pupilles. Bah oui.
Pupilles, school.
Oui. Bon, écoutez, on va réfléchir et on revient. Hein. Après la météo, les infos, on n'est pas sûr. Là.
À la française, c'est pupilles, school.
À tout de suite, c'était RMC.